Mais je pense que je vais être dans la continuité vraiment de ce que vous avez dit tous les deux. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont résonner, enfin du moins je l'espère. Alors le design thinking, moi je ne suis pas du tout codeur non plus. Je suis designer, architecte naval, qui n'a rien à voir, et ébéniste, qui n'a encore rien à voir. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, je ne vais pas vous parler de codage, bien entendu, mais de la relation que l'on va avoir avec ces outils-là. Et la façon dont on peut réfléchir cette relation, et notamment vis-à-vis des enfants, je reviendrai beaucoup sur ce que vous avez dit sur la créativité, qui me paraît essentielle avant même de rentrer dans le contenu, c'est comment donner les outils de la créativité avant de donner finalement les outils du codage. Alors, du design au design thinking, je pense qu'on a à peu près tous en idée ce qu'est le design, même si bien souvent c'est une image un peu finalement simple et raccourcie. Je vais faire en quelques mots, je vais essayer de vous démontrer quelle est la progression du design au design thinking et qu'est-ce que ça nous apporte. Je vais prendre un exemple qui est cet objet. Je ne sais pas si vous avez reconnu de quoi il s'agit. Il y a un logo dessus, donc a priori on voit que c'est dans le domaine de l'automobile. Mais je vous le décris très rapidement. Il s'agit d'une smart key, ce qu'on appelle une smart key, donc ce qui permet d'ouvrir et de contrôler un véhicule. BMW, c'est un véhicule du haut de gamme de BMW qui s'appelle la i8, donc c'est un véhicule entièrement électrique, 100%, je ne parle pas d'hybride, c'est 100% électrique. Donc voilà, ça c'est une approche sur le design où globalement le designer a pris en compte toutes les fonctionnalités, toutes les contraintes, a essayé de faire au mieux avec évidemment les ingénieurs, avec la technique, avec l'ergonomie pour rentrer 1, 2, 3, 4, 5 boutons, un écran et 70 fonctions. Voilà. Donc c'est là où je voulais en venir. Donc effectivement, on peut se dire c'est un bon design ou c'est pas un bon design, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on s'est focusé sur l'objet. L'objet. Et le passage du design au design thinking, alors même si il y a peut-être des designers dans la salle, ils vont dire « Oh, t'exagères un peu » parce que le designer, il ne s'occupe pas que de l'objet. Mais la démarche, c'est de passer de l'objet à l'expérience. Hein, d'élargir évidemment cette vision-là. Et je prends, pour étayer mon propos, une autre smart key, donc exactement le même univers, exactement le même niveau de gamme, un véhicule 100% électrique qui est sorti en 2016 de la même manière qu'est sorti la i8, et il s'agit du dernier modèle S de la Tesla. Voilà. Alors je vous disais, sur le premier objet, il y a 70 fonctions, il y a un manuel d'instruction qui est à peu près épais comme ça. Les résultats finalement sont évidents, c'est-à-dire que Wendy parlait de faire de la conception centrée utilisateur. Vous pensez bien qu'avec 70 fonctions, je n'ai pas envie de me plonger dedans. Le résultat, c'est que 96% des personnes qui achètent une i8 ne prennent pas l'option de la clé telle que vous la voyez là. Donc c'est un rejet, évidemment, d'usage. Donc à l'inverse, sur cette clé de Tesla, vous n'avez que deux fonctions. Deux. J'ouvre et je ferme. Si je pose le pouce sur le capot avant, j'ouvre le capot avant. Si je le repose sur le capot avant, je ferme le capot avant. Si je pose sur la portière droite, j'ouvre la portière droite. Point. Donc vous allez me dire, oui, c'est très bien, c'est formidable, c'est fluide, c'est tout ce qu'on veut. Mais en même temps, elles sont où les 80 autres fonctions? Ben, elles existent. Mais on n'a pas tout mis dans le même objet, puisqu'on a pensé d'abord expérience avant de penser produit. C'est là où le design thinking devient un élément de réflexion très important. Et je vais en venir sur un point essentiel. Quand on pense expérience, on pense écosystème. Quels sont les écosystèmes avec lesquels j'interagis? Et une personne qui, en 2016, achète un modèle S de chez Tesla, a priori, il y a fort à parier qu'il a déjà un téléphone portable dans sa poche. Il a un smartphone. C'est son écosystème d'usage. Et donc, toutes ces fonctions que j'ai eu du mal à mettre dans un tout petit écran et des tout petits boutons, je vais évidemment les mettre dans un appareil sur lequel j'ai du référentiel d'usage, sur lequel j'ai de la facilité et sur lequel, évidemment, tout va se passer beaucoup mieux. Donc, du design au design thinking, c'est un élargissement évidemment du champ de réflexion et d'usage pour passer d'une vision produit à une vision expérientielle. Alors tout ça, moi c'est un cheval de bataille, c'est pourquoi on fait tout ça. Moi je dis souvent, c'est pour donner du sens avant de donner du signe. Parce que très souvent, on réduit le design finalement à sa finalité, à l'esthétique. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout l'esthétique, le design. Le design, c'est la façon dont je vais concevoir l'interaction avec l'objet, avec le service, avec le système, Donc comment est-ce que je vais donner du sens avant de donner du sens? D'ailleurs, c'est pour ça que je disais, je vais avoir pas mal de rebonds avec ce que disait Wendy. Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'elle ait parlé 90% de son temps d'interaction et pas d'interface. Ne faisons pas la confusion entre une interface et une interaction. L'interaction, c'est la façon dont je vais dialoguer avec l'objet, que ce soit physique, que ce soit avec la voix, que ce soit de n'importe quelle façon. Et une fois que j'ai défini la meilleure façon que j'allais interagir avec l'objet, je mettrai peut-être l'interface qui va avec. On a bien vu avec le Tesla, on ne s'est pas posé la question de l'interface sur la Smart TV, il n'y en a pas, au sens de l'écran, mais on est bien sur la réflexion de comment j'interagis. Alors, donner du sens avant de donner du signe, c'est tout simplement pour aborder effectivement le questionnement par l'expérience, comme je le disais, et non pas se focaliser sur l'objet. Et là, ça devient extrêmement important, parce que si on parle d'expérience, ça veut dire qu'on est formaté par les objets. Et effectivement, je reprendrai un des éléments qui était dans le texte introductif que nous a transmis Déborah. Quand Günther Anders dit que nous sommes finalement déterminés par les objets. Les objets nous déterminent dans la relation d'usage que l'on a. Vous voyez bien qu'entre un Mac et un PC, il y a les Pro Mac, il y a les Pro PC, parce que derrière, on développe évidemment des expériences et des usages qui n'ont rien à voir. Donc ça nous détermine, évidemment, et derrière, ça va créer ce que moi j'appelle des référentiels d'usage. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en tant que designer quels sont ces référentiels d'usage. Une fois de plus, je reprends l'exemple de l'écosystème d'usage de la Smart Key. Le référentiel d'usage, aujourd'hui, quand on doit naviguer sur un écran, c'est à minima un smartphone, mais ce n'est pas effectivement un tout petit écran dans lequel j'ai énormément de mal à afficher l'information. Donc les objets nous déterminent. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir derrière comment est-ce que ça va me permettre finalement d'identifier ces référentiels-là, et de m'appuyer sur ces référentiels pour faire des propositions de valeur qui peuvent être soit innovantes, soit plus efficientes, soit plus efficaces. Alors je vais faire rapide, mais juste pour qu'on cristallise et qu'on focalise un petit peu cette approche-là, chaque génération a ses référentiels d'usage. Chaque produit nous a déterminé dans la façon dont on allait finalement interagir et comprendre. Je vais faire rapide, mais je vais prendre quatre générations, des baby-boomers aux générations Z. En quoi des éléments iconiques, emblématiques de l'apprentissage, ont formé des référentiels d'usage qui, derrière, ont structuré tout un tas d'expériences. Génération baby-boomer, c'est de Larousse. On est sur la culture du verbe, mais plus que ça, c'est une culture patriarcale. C'est-à-dire que c'est là que se trouve le savoir. Je ne sais pas si le Collège de France se réunit une fois par an pour définir les nouveaux mots, je ne sais pas si c'est le Collège de France ou d'autres, mais en tout cas, c'est une vision patriarcale. Et voilà, le savoir passe par ces outils. Ça va créer derrière toute une façon, évidemment, d'apprendre et de réagir. Arrive la génération X, alors 65-80, avec le quid. Alors, j'adore parce que c'est tout pour tous. La baseline, c'est tout pour tous. Et évidemment, arrive la culture de l'image. Et donc, on va commencer à apprendre et à retenir par l'icône, par le symbole et par l'image. C'est une aide, évidemment, dans l'apprentissage. Et puis, je vais passer à génération Y, 80-95. Là, j'ai mis Encarta, que peut-être certains ont connu, Microsoft. Encarta, donc, c'est une façon, finalement, d'augmenter, évidemment, le contenu, de rendre peut-être plus ludique une partie de ce contenu avec des images animées, avec la capacité d'interagir avec les sujets et qui va créer là encore des nouveaux référentiels d'usage. Et puis je vais passer aux générations Z, celles qui nous intéressent aujourd'hui. Et là c'est très intéressant. Parce que la génération Z, c'est même plus celle de l'image, c'est celle de l'image animée. C'est YouTube. Alors, je vais peut-être vous faire sourire, mais YouTube aujourd'hui, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Le deuxième moteur de recherche au monde. C'est juste énorme. Ça a été créé en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été racheté en 2005 par Google. Donc ils ont vu très très vite qu'il allait se passer des choses par là. Pourquoi ? Parce que les nouvelles générations sont des générations qui font de la recherche par l'image et par l'image animée. Et donc je suis en train de vous parler d'un nouveau référentiel d'usage. Aujourd'hui, génération Z, quand ils cherchent quelque chose, ils tapent une requête dans YouTube. Ils ne tapent pas dans Google, ils tapent une requête dans YouTube. Parce que tout se passe par les tutoriaux. On va le voir juste après. Donc ça nous enseigne des choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont chercher derrière ce tutoriel ? Ils vont chercher une multitude d'entrées sur un même sujet. Je vais y revenir juste après. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que designer, c'est de comprendre finalement quel nouveau référentiel d'usage tout ça crée. Et dans la compréhension de ces référentiels d'usage, comment est-ce qu'on peut s'appuyer finalement sur ces éléments d'usage et d'expérience, sur ces écosystèmes que j'évoquais tout à l'heure, pour être plus performant dans l'apprentissage. Et donc j'ose poser une question qui est un peu provocatrice, qui est de dire, est-ce que l'usage n'est-il pas prédominant à l'apprentissage ? Est-ce que la compréhension des usages, la compréhension de ces comportements, n'est pas finalement un élément clé dans la façon dont je vais produire des dispositifs d'apprentissage ? Parce que je pense qu'on peut aussi prendre évidemment la question dans l'autre sens, mais moi en tant que designer, je suis obligé de me poser cette question de l'usage et de l'apprentissage. Donc c'est ce que je vais essayer de rapidement de développer. Je parlais de ces générations Z. Je vais vous montrer ce qu'est une soirée vidéo d'un génération Z. C'est ça. C'est ça, entre autres, il n'y a pas que ça, mais j'ai pris cette image parce qu'elle est assez représentative. Alors, on fait énormément d'observations terrain. On n'est pas ethnologue, mais on est designer. Donc, sur toutes les études que l'on fait, on va essayer de capter quels sont ses comportements, quels sont ses usages. Et il regarde YouTube pendant 2-3 heures. Et voilà, c'est sa façon d'être relax et de regarder YouTube. C'est un usage, c'est un comportement. Tu veux réagir, non ?
Non, c'est appropriation.
Appropriation, bien sûr. Je vais même parler à un moment donné de détournement d'objets, qui est pour nous, en tant que designer, extrêmement intéressant. S'ils détournent un objet, c'est que derrière, on n'a pas réussi à satisfaire la façon, leurs usages ou la façon dont ils veulent consommer telle ou telle fonction. Et comment est-ce qu'on observe le détournement d'objets pour finalement réorienter nos propositions ou voir en faire de nouvelles ? Donc voilà une soirée d'un génération Z qui regarde plutôt YouTube que d'autres supports. Et pour étayer cette approche-là, je vais vous montrer une ou deux slides. Alors celle-ci, j'ai trouvé très intéressante. C'est une étude qui est sortie l'an dernier sur le découpage d'une journée entre le temps de travail et ce qu'on appelle le micro-laser. Hein, le temps finalement où on s'échappe, où on va faire autre chose que son travail. Donc on voit bien que sur la génération des baby-boomers, on a nous appris que le temps de travail était ponctué d'une certaine manière. On travaillait le matin, on avait peut-être une petite pause, on avait même une pause d'une heure, une heure et demie à midi, puis on travaillait le soir, et après, voilà, on avait le temps qu'on voulait. Et bien sur les générations Y, et pire sur les générations Z, c'est plus du tout la même chose. Tout est haché. Tout est en consommation continue. Le travail et le loisir est en même temps. Voilà. Moi, je n'essaie pas de dire c'est bien, c'est pas bien, j'essaie juste d'observer et de comprendre, évidemment, derrière, qu'est-ce que l'on peut en faire. Je ne porte absolument aucun jugement, c'est juste de me dire, si ce sont des nouveaux référentiels d'usage, j'insisterai beaucoup sur cette notion de référentiel d'usage pour nous, comment on fait ? On voit déjà que là, ça veut dire qu'on ne peut pas leur imposer un rythme. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Si on ne peut pas leur imposer un rythme, dans la notion d'apprentissage, il va peut-être falloir qu'on en tienne compte. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette logique, finalement, de rythme haché, de rythme ponctué, de micro-moments. Aujourd'hui, on sait bien que tous les DRH des grandes entreprises ont compris qu'on ne pouvait plus, qu'il ne fallait plus interdire l'utilisation de Facebook dans l'entreprise, parce que ce n'est pas uniquement un loisir, pour eux, c'est aussi un moyen de travailler et d'aller chercher l'information. Je ne vous parle pas de YouTube, évidemment, puisqu'on a vu que c'était le deuxième moteur de recherche, notamment pour ces générations-là. Donc on ne peut pas leur imposer un rythme. Et puis ça va encore plus loin, 67% de la génération Y déclare apprendre des choses grâce à des vidéos trouvées sur les plateformes spécialisées. Donc si les Y déclarent 67% qu'ils apprennent des choses par les vidéos, quid des générations Z, évidemment. Je n'ai pas le chiffre, malheureusement, parce que l'étude de Google Search c'est sur les Y. Je n'ai pas le chiffre des Z, mais il y a fort à parier que c'est bien plus, évidemment, que la génération Y. Donc, Parmi les requêtes les plus demandées sur YouTube, c'est « how to ». C'est « comment faire ». « How to ». D'accord ? Donc, on cherche un tutoriel pour apprendre. C'est ça qui est très intéressant. C'est « how to », tout ce que vous voulez. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est ce qui... c'est celle d'après. C'est qu'en moyenne, ils visionnent 5 vidéos sur un sujet, sur une requête. Ça veut dire qu'ils vont aborder la question de façon multiple. C'est how to quelque chose, mais je vais regarder 5 vidéos pour avoir des avis critiques, pour me faire mon propre avis, et pour finalement enrichir finalement ma connaissance de différents points de vue. Donc, on est loin, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est pas bien, je suis dans le constat d'usage. On a du Larousse illustré de départ, on avait une pensée descendante patrimoniale, où là, on va finalement... J'ai l'habitude de dire qu'on passe d'une vision patriarcale à une vision fratriarcale, c'est-à-dire que c'est plutôt mes pairs que mes experts. C'est bien, c'est pas bien, une fois plus, là-dessus on peut en débattre, parce que je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Toujours est-il que c'est un mode opératoire, et que je trouve intéressant à observer. Mais là où ça va encore plus loin, c'est qu'on n'a pas fini d'être surpris, c'est qu'ils regardent 5 vidéos sur YouTube pour faire. C'est-à-dire que ce sont des « makers ». Ce qu'on appelle les makers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont soif de faire, de faire, de faire. Ils ont soif d'apprendre, mais pourquoi apprendre? C'est pour passer à l'acte. Ils veulent faire, ils veulent comprendre pour faire, dans une proportion très importante, à tel point que le système s'auto-alimente. Quand ils regardent 5 vidéos, c'est pour se faire leur propre opinion sur un sujet, pour faire eux-mêmes, pour filmer ce qu'ils sont en train de faire, et pour remettre sur YouTube ce qu'ils viennent de filmer. Et voilà, la machine est bouclée, et tout ça s'augmente. Je rappelle juste que le nombre de vidéos téléchargées sur YouTube chaque année augmente de 50% depuis 5 ans. C'est colossal, colossal, colossal. Ça montre juste leur intérêt à être effectivement dans la production. Et l'apprentissage pour eux se fait par « je regarde différentes clés d'entrée », je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on ne m'impose pas les règles, on ne m'impose pas un rythme, je crée mes règles, je crée ma façon de faire, et je le montre aux autres. Pardon, vous voulez réagir, non? Donc voilà, ils détestent les règles.
On est d'accord.
D'accord. Pas du tout. Ouais, justement, c'est pour ça que le débat est intéressant.
Moi, je suis d'accord.
Et une fois de plus, moi, je suis sur le constat d'usage, et je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on va débattre, et il y a des limites à mettre. Et le dernier point, c'est qu'ils sont extrêmement mobiles, on l'a vu. Hein. Ils sont sur les outils de la mobilité, et ça a d'autres conséquences d'un point de vue de l'usage et de l'apprentissage. Alors, une fois que je vous ai posé un petit peu ce cadre sur les générations Z, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir finalement comment est-ce que tout ça, on peut utiliser, j'évoquais tout à l'heure, ces leviers pour concevoir différemment des logiques d'apprentissage. Je vais juste prendre deux exemples. Un premier exemple qui est une étude que j'ai menée pour SFR Innovation il y a maintenant 7 ou 8 ans sur ce que l'on appelait à l'époque l'edutainment, on a un petit peu parlé tout à l'heure, comment apprendre par le jeu. L'objectif de SFR à l'époque était de voir s'il était possible d'adresser du contenu culturel et d'apprentissage par le jeu. Alors, je vais juste vous montrer, je ne vais pas vous décrire l'étude, parce que ça peu importe, mais je vais vous montrer juste quelque chose qui m'a absolument sidéré. Durant cette étude, je vais vous montrer une toute petite vidéo. En tant que designer, on fait énormément d'observations in situ. C'est-à-dire qu'on va aller voir là où se trouve la séquence d'usage, les enfants, en l'occurrence, il s'agissait des enfants de 7 à 13 ans, voir comment ils jouent avec leur console de jeu, avec leur système, pour essayer de comprendre dans quel environnement ils se trouvent, quelles sont leurs logiques de jeu, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement à faire, et de comprendre l'environnement et le contexte. On a fait une vingtaine d'observations in situ, de séquences d'usage, et sur ces 20, il y a 3 séquences, il y a 3 familles, dans lesquelles il y avait soit un petit frère, soit une petite sœur, 4, 5, 5 ans, qui a déboulé dans la scène d'usage, et je vous montre ce qui s'est passé. Donc là, c'est la petite sœur qui déboule dans la séquence d'usage où son grand frère était en train de nous montrer comment il interagissait, enfin, comment il jouait finalement avec ses consoles de jeu. Voilà. Elle a 4 ans, je crois, ou 4 ans et demi, je ne sais plus.
Non,
peut-être moins, oui. On en a eu trois, j'ai les noms en tête, mais je n'ai plus les âges. Voilà, je vous fais très court. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, la petite sœur, elle jouait déjà sur l'iPad des parents. Donc son référentiel d'usage, c'est je slide. Elle arrive devant l'écran, elle slide, évidemment. C'est pour eux, c'est une évidence. Et donc, si on ne tient pas compte de ces nouveaux référentiels d'usage, je vais rater quelque chose. Je vais tout simplement rater la capacité de m'appuyer sur quelque chose d'évident, d'intuitif pour cet enfant. Donc, à un moment donné, la question de ce référentiel devient essentielle pour penser les nouveaux systèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas injecter des nouveaux systèmes, mais il va falloir tenir compte de ceux qui existent à l'instant T. Lorsque Wendy disait que tout ce qu'elle nous a montré existait depuis très longtemps, pour certains depuis 20 ou 30 ans, oui, mais nous, en tant qu'usagers, est-ce que nous étions prêts à utiliser ces nouveaux référentiels d'usage? Donc, la question, c'est comment est-ce que je fais matcher une nouvelle technologie qui me demande un nouvel apprentissage, un nouveau process, avec des référentiels qui sont intuitifs et acquis pour moi? Il faut que je fasse évoluer ces référentiels. Je ne suis pas en train de dire que slider sur un écran, c'est gravé dans le marbre à jamais. Ça évoluera. Certainement que la commande par la parole va arriver. Il y a plein de choses. Mais tout ça, évidemment, à un moment donné, ça doit arriver à se matcher, parce que sinon, il y a des incompréhensions d'usage. Et donc, la question, c'est comment utiliser les référentiels d'usage pour faciliter l'apprentissage. Vous m'avez vu, évidemment, arriver sur cette question de l'usage et des comportements. Alors, moi, j'aborde la question, évidemment, d'un point de vue volontairement centré sur l'utilisateur. C'est vraiment le propos du designer. Encore plus que l'utilisateur, c'est sur son expérience. Et c'est vrai que je défends plutôt l'approche qui est de dire faire pour apprendre plutôt que apprendre pour faire. Et vous allez voir, évidemment, qu'à un moment donné, je vais aborder les deux, puisqu'il va bien falloir que tout ça se nourrisse. Mais plutôt faire pour apprendre. Et je vais revenir à des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure sur la notion de créativité. Je pense qu'elle est essentielle. Pour donner envie, il faut leur donner la capacité d'être créatif. Et finalement, comme on l'a vu sur ces générations Z, la capacité d'explorer et de faire par eux-mêmes. Et pour ça, j'ai pris un exemple que je trouve extrêmement intéressant, que sont toute la plateforme d'interaction, je dis bien d'interaction et pas uniquement d'interface, vous allez voir, qu'a développé la société Aldébaran. Peut-être que vous connaissez Aldébaran, qui est le numéro 1 mondial des robots humanoïdes, qui est une société française, qui a été rachetée par SoftBank, société japonaise. Et ils ont développé toute une logique d'interaction et d'interface qui a pour but, entre guillemets, mais c'est très très bien fait, de simplifier la programmation, je ne parle même pas encore du codage, la programmation de leur humanoïde. Et ce qu'ils ont fait remarquable, parce qu'ils ont travaillé avec des designers sur comment matérialiser un certain nombre de concepts pour que ces concepts soient comme les briques de Lego qu'a évoqué Wendy juste avant, qu'on puisse les utiliser et créer avec des sous-ensembles. Je ne crée pas avec le code, je crée avec des éléments qui sont déjà conceptualisés, ce qu'ils appellent des behaviors, des comportements. Et je vais associer des comportements pour finalement créer des séquences d'usage qui m'intéressent et qui me plaisent. Et là où ils sont allés très loin dans la démarche, c'est qu'ils ont ouvert un atelier, ouvert à tous et principalement ouvert aux enfants, où ils mettent à disposition leur plateforme et tous les enfants peuvent venir une fois par semaine expérimenter. L'objectif d'Aldébaran, c'est de voir qu'est-ce que les enfants imaginent faire avec ces futurs humanoïdes dans le futur. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent en place une plateforme intermédiaire. On ne leur demande pas aux enfants de coder. On demande de jouer avec des éléments, avec des concepts qui peuvent assembler, être extrêmement créatifs, être dans la logique du test and learn, de l'erreur, et de voir dans leur tête, dans leur créativité, qu'est-ce qu'ils pensent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces humanoïdes. Alors, je vais vous montrer plusieurs slides et puis deux petites vidéos. Je vais vous montrer, pardon, en même temps. Ces deux slides sont exactement la même séquence d'usage chez Aldébaran. Ça, c'est la slide, si on l'aborde uniquement par le codage, celle-ci. Et celle-ci, c'est la slide si on l'aborde par les fameux librairies de behaviors, de comportements. Vous avez des librairies ici, de comportements, et vous pouvez venir sélectionnez le comportement que vous voulez. Là, vous avez la vision, là, vous avez la posture debout, vous avez tout un tas de comportements que vous prenez, mais comme des briques de Lego, vous prenez une brique, vous la posez, ils utilisent, je parlais de référentiel d'usage, tous les référentiels existants dans les interfaces, c'est-à-dire le click and drop, le copier-coller, tout ce que vous voulez. Et la seule chose qu'a à faire l'enfant, c'est de lier ces briques les unes aux autres, soit sur des liens directs, soit sur des boucles. Vous avez des éléments d'entrée, des éléments de sortie. De la même façon qu'il y a 30 ans, j'assemblais un moteur électrique avec une roue, avec une courroie, avec une poulie, et avec mon mécano, je faisais une grue. Mais j'avais bien, au départ, des sous-ensembles qui étaient des éléments de concept que j'arrivais à assembler. Et c'est extraordinaire. Moi, je vous invite un jour d'aller à l'atelier Aldébaran à Issy-les-Moulineaux à regarder ce que font les enfants avec ça. C'est juste incroyable. Incroyable. Alors, si on va un petit peu plus loin, voilà les enfants avec Nao, qui est un des deux humanoïdes d'Aldébaran. On utilise tous les référentiels et tous les codes que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on assemble des concepts de façon très simple, de la même façon que j'assemble des briques de Lego. J'ai une vision en temps réel de ce qui se passe. J'ai une timeline au-dessus pour me dire finalement est-ce que je dois bouger le temps de tel mouvement par rapport à tel mouvement. Bref, ils peuvent à n'importe quel moment visualiser le résultat sur Nao de façon virtuelle et de façon réelle. Et donc on est bien dans l'expérimentation. J'ai plusieurs clés d'entrée, j'essaye, donc je refais. Et petit à petit, je construis des histoires. Je construis finalement des séquences qui sont le reflet de ce que moi je projette interagir avec cet objet-là. J'ai parlé des bibliothèques. Alors, je vais vous montrer deux vidéos. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, leur principe de fonctionnement, c'est d'essayer des entrées multiples et puis de faire profiter aux autres de leurs résultats. Et donc, ils se filment. Parce que derrière, ils vont remettre sur YouTube, finalement, leurs expériences pour dire ben « Moi, j'ai fait ça comme ça, ça apporte tel résultat. Et si vous voulez en profiter, voilà ce qu'il en est. » Donc, je vous montre deux petites vidéos que vous trouvez sur YouTube. Il y en a des quantités sur Nao et la programmation de Pepper. C'est Nao, pardon, et c'est Pepper. Voilà, elles sont courtes. La deuxième est longue, mais j'en ai pris qu'un extrait. Et on y reviendra juste après. Je ne sais pas quel âge a la petite fille. Ouais, 9-10 ans peut-être. On voit la simplicité, la facilité d'aller chercher des briques, de les composer, de les assembler. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand ils cliquent ici sur une des briques, ils ont la possibilité de modifier une partie de son contenu et à un moment donné de rentrer dans le code. Et donc c'est un appel, évidemment. Une fois qu'on maîtrise l'ensemble de ces outils-là et la créativité qui va avec, c'est un appel à rentrer dans le cœur du système. Une deuxième vidéo, alors elle est longue, je l'ai écourtée, évidemment, peu importe. Et je vous dirai pourquoi je l'ai choisi par rapport à des milliers d'autres. Je suis désolé, je pensais qu'il y avait la vidéo qui était intégrée. Vous entendez ou c'est très difficilement hein, le... On va peut-être essayer de mettre ça comme ça. J'ai mis mon Mac à fond, mais...
Hi.
My name is Chrissy.
And my name is Mimi. Today we'll be showing you how to make Thomas do most of the Macarena using Choreograph.
Yeah! First, you need to open Choreograph. Okay, we're just gonna stop that.
Then you secondary mouse click in the flow diagram panel. Then you press create a new box and then press timeline. Yeah. Now name your box the Macarena and press OK. Excuse our spelling if it's incorrect.
Excuse us. I think that's wrong.
Doesn't matter. Just leave it.
No.
Okay.
Macarena.
We said excuse our spelling, so that's fine.
Yeah, maybe.
Now you have to.
Whoops, it's my line. Then you double click in the middle of the box that you just created.
And then click 10 on the timeline and follow what I'm about to do.
Dun dun dun!
Oh, sorry, I didn't do that. Okay.
Nothing happened.
So we press on the lamp.
Just minor issue.
We just move this.
Out of the way, woman!
That's too much, I can tell.
Okay, that's way too much.
You got his arm backwards.
Make him wave.
Hi.
Oh, yeah, I'm doing the Macarena and also waving at the same time.
Okay, let me get it back to
you. Humbugger cheeseburger waving in the air.
Okay, here we go. Move
and then
closer.
Someone just ran past.
Sorry about that.
Get down.
Sorry, there's a piece of paper annoying us. Okay, now Chrissy will run you through the next arm.
Huzzah. Oh wait, we're meant to save it, remember, lady? Oh.
Voilà, bon, il y en a une demi-heure. Pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette vidéo-là? C'est qu'en fait, on voit qu'il y a différents niveaux d'entrée, différentes façons d'exploiter ces briques de concept. Le premier, vous l'avez vu, c'est je vais chercher dans une bibliothèque ces éléments-là, je les assemble. Et puis, sur ce que vous venez voir ici, c'est que même quand je clique dessus, je peux commencer à changer des paramètres et dans une logique, ce qu'on appelle WYSIWYG, hein, What I See is What I Get, c'est-à-dire que je fais changer, je commence à rentrer dans des choses plus fines et je peux même, dans un troisième niveau, je vais même parler d'un quatrième tout à l'heure, évidemment rentrer dans le code. C'est-à-dire qu'on donne à chaque fois des outils qui permettent d'approfondir petit à petit en fonction de son degré de connaissance, en fonction de la façon dont j'ai... Finalement, je suis à l'aise avec le système pour programmer Nao. Ce que l'on voit par là, parce que je n'ai pas voulu mettre des dizaines de vidéos, c'est, je vais revenir sur cette vidéo, sur cette image ici, vous pouvez également utiliser Nao comme support aux gestes que je veux lui demander à faire. C'est-à-dire qu'il fait du reverse. Si vous prenez Nao et que vous le bougez, la façon dont il bouge va constituer la timeline et va appeler les bonnes briques du système pour constituer votre mouvement. Ce qui fait que je peux commencer finalement quasiment avec aucune connaissance. Je vais avoir une base et sur cette base, je vais pouvoir rajouter des briques. Et parce que je lui ai fait faire ça, dans la brique de la parole, je vais dire « Bonjour, comment allez-vous » et ainsi de suite. Donc tous ces outils sont pour moi des outils extraordinaires de la créativité qui va dans le sens de ce que j'ai essayé de vous démontrer que ils sont réellement dans leur pratique d'usage, dans leur comportement, à la recherche, d'une diversité d'expériences et d'angles d'attaque sur un sujet, et deux, de rentrer dans le faire avant même de rentrer dans le codage. Alors on va dire, ouais, mais pour faire, il faut avoir un minimum d'acquis et d'apprentissage, bien sûr, c'est pour ça que je dis tout ça, évidemment, s'auto-alimente, mais je pense que mettre une bonne partie d'expérimentation avant même de rentrer dans le cœur de la machine est essentiel, vraiment essentiel pour ces jeunes, et qu'on a aujourd'hui la capacité d'avoir des outils d'interaction et d'interface que développe INRIA et que développent bien d'autres partenaires qui sont extraordinaires. Voilà, moi je voulais juste du coup finir mon propos par C'est une génération qui fonctionne sur la logique du test and learn. Et moi, j'avoue que mon travail en tant que designer, c'est de se poser la question, quels sont finalement les éléments, les artefacts qu'on va pouvoir mettre à disposition pour faciliter cette logique du test and learn? Et derrière ça, évidemment, comment est-ce que je capitalise sur ce qu'ils ont acquis pour petit à petit faire une boucle itérative, et la boucle itérative, c'est aussi ce qui caractérise le design thinking, pour approfondir, et donc c'est ce que j'espère, un cercle vertueux d'apprentissage. Voilà.